Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, j'avais prévu de prêcher sur Notre-Dame aujourd'hui. En effet, c'est une grande fête que celle du 26 avril, Notre-Dame du Bon Conseil. Je vous recommande de lire cette magnifique image, cette image dont on ne sait pas l'origine, qui a une grandeur d'une carte postale, à Genazzano en Italie. Et des merveilles à ce sujet-là, avec des combats obtenus pour les chrétiens au XIIIe, XIVe, XVe siècle, avec j'ai oublié le nom de famille, d'Iskanderberg, un prince albanais qui a été élevé par capture par le sultan turc, et qui, dans sa jeunesse, vers 20 ans, 25 ans, alors que le vizir, le sultan l'avait bien capturé avec ses frères, il s'est retourné contre le sultan et a mené des guerres extraordinairement victorieuses grâce à Notre-Dame, qu'il visitait régulièrement, donc cette belle image de Notre-Dame de Genazzano. Et c'est un homme extraordinaire que ce Skanderberg, qui a été plein de prouesses dans toute sa vie, dû à sa force physique, mais morale surtout, sa force qu'il tenait de Notre-Dame. Et puis en lisant le deuxième Alléluia de la messe de ce troisième dimanche après Pâques, il y a un fait extraordinaire que notre Seigneur Jésus-Christ a répété à plusieurs reprises aux disciples d'Emmaüs et par la suite à tous les disciples, lorsqu'il dit qu'il fallait qu'il souffre afin d'entrer dans sa gloire. Aussi, c'est sur ce sujet que j'aimerais m'arrêter quelques instants. Nous le disons dans l'oraison de l'Angélus, qu'on ne récite pas bien sûr durant le temps pascal. Nous disons ceci, que par sa passion et par sa croix, nous parvenons à la gloire de sa résurrection. Donc par sa passion, sa croix, la résurrection. Et nous voudrions être bienheureux, nous voulons, et nous avons ce souhait, bien sûr, d'être bienheureux, sans passer par des souffrances, sans passer par des tribulations, sans passer par l'épreuve. C'est une illusion. Notre Seigneur Jésus-Christ est passé par là. Avant lui, les prophètes sont passés par là. Tous les prophètes ont subi des tourments, des avanies, même des morts ignominieuses. Les grands prophètes, Isaïe, qui a annoncé la venue du Messie et sa passion, sa croix, sa mort. C'est le grand prophète qui a annoncé tous ces faits extraordinaires. Eh bien, il a été scié en deux, de haut en bas, avec une scie en bois. Imaginez le supplice qu'il a subi pour notre Seigneur Jésus-Christ. Jérémie, qui annonce aussi les cataclysmes, un peu l'Apocalypse avant Saint Jean, dans l'Ancien Testament. Il est traîné, il mourra dans les caniveaux, en captivité. Donc les grands prophètes, même les petits prophètes, ont subi de grands tourments pour Jésus-Christ. Ils sont bienheureux à présent. Ils ont souffert pour notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils annonçaient. Notre Seigneur Jésus-Christ a prédit aussi aux apôtres qu'il serait dans la gloire, mais qu'avant la gloire, ils boiraient leur calice, le calice. Le calice, c'est l'amertume. Le calice, c'est la passion. Le calice, c'est le martyr. Tous martyrs. Même Saint Jean, qui a subi le martyr, il n'en meurt pas, mais il a été ébouillanté dans l'huile bouillante à Rome, devant la porte latine. Donc, il n'est pas martyr parce qu'il a été ragaillardi par ses supplices extrêmes, mais il a quand même subi le martyr. Quant aux autres apôtres, tous martyrs. Donc par la passion, par la croix, à sa résurrection. Et notre Seigneur Jésus-Christ le rappelle bien dans ses différentes apparitions, mes chers frères, aux disciples d'Emmaüs, qui affabulent, qui rêvent, ils racontent cette histoire qui s'est passée il y a deux jours, puisque ça se passe le dimanche de Pâques, notre Seigneur Jésus-Christ les rejoint. Eux ne le reconnaissent pas. Et Jésus-Christ, cet étranger pour eux, dit à ceux du disciple, Cléophas et son compagnon, « Mais de qu'est-ce qui vous arrive? De quoi parlez-vous? Comment? Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé ?» L'étranger leur dit « Quoi ?» Il n'a pas dit « Non, je ne sais pas. » Il aurait menti. Mais il dit quoi? Il veut, cet étranger, que ses deux compagnons ouvrent leur cœur. Et c'est ce qui se passe. Et ainsi, les compagnons racontent les faits épouvantables qui se sont produits durant ces jours de la Passion. Et ainsi, une fois que les cœurs se sont ouverts, l'étranger va les secouer, leur disant « Ô homme sans intelligence, sans intelligence, vous êtes vraiment le cœur fermé, enfin leur cœur s'est ouvert, mais quand même leur cœur était fermé, les oreilles étaient bouchées, les yeux étaient également fermés. » C'est ça l'intelligence qui est fermée. Cœur sans intelligence, homme sans intelligence. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit afin d'entrer dans sa gloire? Et là, notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui, nous savons, eux ne le savaient pas, ils l'ont reconnu par la suite, notre Seigneur Jésus-Christ va ouvrir les Écritures, en commençant par Moïse. Donc, Moïse qui a écrit le Pentateuque. Donc, le tout début, il va reprendre tous les faits qui ont trait à sa passion. Comme on aurait aimé que ce fût transcrit. Ça n'a pas été fait, en tout cas dans l'Évangile. Des auteurs, bien sûr, ont épluché la Sainte Écriture et le travail est fait. Mais durant ce chemin, notre Seigneur Jésus-Christ va leur ouvrir les Écritures. Et peu à peu, non seulement donc la lettre de l'Écriture, mais le sens de l'Écriture. Toute l'Écriture, a dit Jésus, dans un autre passage, toute l'Écriture parle de moi. L'Ancien Testament parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ses disciples d'Emmaüs n'avaient pas l'intelligence. Ils voyaient sans voir, donc ils étaient aveugles intérieurement. Leur cœur était fermé sur eux-mêmes. Et Jésus-Christ leur montre l'importance de sa passion pour sa gloire. Par la suite, quelques jours plus tard, notre Seigneur Jésus-Christ, enfin quelques jours entre la résurrection et l'ascension, Jésus-Christ apparaît non plus à deux disciples, mais aux apôtres et aux disciples, à plusieurs disciples. Et il va reprendre les mêmes faits. Il va leur ouvrir l'intelligence. En disant, il fallait que le Christ souffrit toutes ces choses afin d'entrer dans sa gloire. Jésus-Christ est notre modèle. Et puisqu'il est notre modèle, nous devons prendre modèle sur lui. Et quand nous souffrons quelque chose, que ce soit physique, moral, la peine, quel que soit le motif et la source de la peine, il faut toujours, eh bien, chacun nous référer à notre Seigneur Jésus-Christ. Comment a-t-il vécu ses souffrances? Au calvaire, il y a trois croix, celle du juste et celle de deux injustes. Mais au bout d'un certain temps, le larron qui va devenir le bon larron réfléchit et il va confesser l'innocence de notre Seigneur Jésus-Christ et confesser ses péchés. Pour nous, c'est justice. Mais lui n'a rien fait de mal. Et à partir de ce moment-là, le larron qui devient de mauvais bon va offrir toutes ses souffrances en union avec celle de Jésus-Christ. Et ses souffrances sont différentes. Il souffre, mais non plus comme un forçat, comme un damné. Mais il souffre comme un élu. Et sa souffrance est autre. Ça ne veut pas dire qu'il a pu souffrir. Bien sûr, il a souffert, jusqu'au bout. Mais il a offert ses souffrances. Et ses souffrances ont été méritoires. Alors que l'autre, ses souffrances sont pires. Parce qu'il n'y a pas Jésus. Et souffrir sans Jésus, c'est une horreur totale. Souffrir avec Jésus, c'est un baume salutaire, c'est le ciel assuré. Donc voyons bien ce larron qui était mauvais, qui devient bon, a volé le cœur de Jésus. C'est saint Augustin qui dit cela. Donc il est resté voleur jusqu'au bout. C'est merveilleux, merveilleux. Il a accompli son travail jusqu'au bout. Mais il change l'attitude de son âme. Donc, il faut bien retenir cela, mes bien chers frères. Les souffrances sont partout, physiques et morales, physiques ou morales, ou physiques et morales, ou morales seulement parfois quand on a une santé de fer. Mais nous avons toujours, et personne ne peut dire non, je ne souffre de nulle part. Nous souffrons pour nous-mêmes, nous souffrons pour nos familles qui ne sont pas catholiques, nous souffrons pour les pécheurs endurcis qui refusent de se convertir, nous souffrons. Parfois, nous ne voulons pas le reconnaître, mais la souffrance, elle est partout. La souffrance est partout. On peut s'étourdir par différents moyens. Il n'y a pas que l'alcool. Le réveil est difficile. Je n'en sais rien, mais on m'a dit. Bref, la souffrance, elle est bien universelle. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a atténué nos souffrances. Parce que nous savons par lui qu'il y a un ciel. Le monde moderne refuse. Oh, ce monde moderne, il est ancien. Depuis que le péché existe, ce monde est moderne. Mais au mauvais sens du moderne. Ce monde est sans Dieu. Et par conséquent, un monde sans Dieu est un monde épouvantable. Et on voit bien de nos jours. La souffrance est là, mais on s'étourdit. On s'étourdit pour oublier l'éternité. Mais quand l'âme se retrouve seule avec elle-même, dans le silence, elle réfléchit. Et c'est aussi une des causes de ce monde qui refuse le silence, parce que le silence aide à réfléchir. Toujours du bruit, toujours du brouhaha, toujours du vacarme. Mais Dieu n'est pas dans le vacarme, Dieu est dans le silence. Et les disciples d'Emmaüs se sont écartés de Jérusalem. Ils allaient non pas dans le silence, ils étaient dans le silence eux-mêmes, mais dans un silence sourd, dans un silence mauvais. Et Jésus-Christ est venu mettre le silence en eux, en leur parlant. Et peu à peu, ils le diront par la suite, notre cœur s'est réchauffé tandis qu'ils nous parlaient. Parce qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Leur souffrance aussi venait de ce qu'ils ne pensaient plus qu'à eux-mêmes, à leur propre souffrance. Et ça, c'est une cause de grande souffrance aussi. Quand on oublie Jésus-Christ et qu'on ne pense plus qu'à ses soucis, à ses difficultés, à ses problèmes, etc., alors on oublie Jésus. Mais quand on pense à notre Seigneur Jésus-Christ, on est porté par lui. Dans la souffrance, il nous porte. Et sans lui, la souffrance nous écrase. Il y a beaucoup de leçons avec notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Par la passion et par sa croix, nous parvenions à la gloire de sa résurrection. À la gloire. Nous sommes faits pour la gloire de Dieu. Cette gloire que les anges, dès Noël, ont chantée aux bergers qui étaient disposés à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Les bergers se sont quittés eux-mêmes. Ils se sont déplacés. C'était un effort pour eux. Mais ils s'en sont oubliés pour chercher notre Seigneur Jésus-Christ. Et les anges chantaient la gloire de Dieu, non pas ressuscité, mais venant. Pour ressusciter les âmes. C'est pour ça, c'est ça Noël. Notre Seigneur Jésus-Christ vient sur terre pour nous ressusciter. Dès ici-bas, par la grâce sanctifiante. On peut demander à Notre-Dame, en terminant, de nous aider à unir nos souffrances à celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre-Dame, elle est présente dans les moments clés de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est toujours présente, discrète, très discrète, mais présente au moment important. Et le plus important, bien sûr, c'est l'Annonciation, Noël, Cana, bien sûr, ce grand miracle où notre Seigneur Jésus-Christ anticipe par sa demande, très discrète, l'heure de la rédemption. Notre-Dame dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Notre-Dame est présente aussi à ce moment si important de la Passion. Elle est debout, Stabat Mater Dolorosa. Dolorosa, bien sûr, elle est douloureuse, elle pleure. Elle est très humaine, Notre-Dame, évidemment, mais elle est debout. Debout physiquement, mais surtout spirituellement. Elle n'est pas écrasée parce qu'elle n'a pas péché, elle est l'Immaculée. Notre-Dame est debout et nous aide dans nos croix, quelles qu'elles soient, à être debout dans notre âme. Non pas écrasés par nos fardeaux réels, parfois grossis, voire imaginaires. Et alors, on perd le sens de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, elle est présente, elle est debout, Notre-Dame. Elle va recevoir sur ses genoux, comme 33 ans auparavant, mais de façon bien différente, notre Seigneur Jésus-Christ, non plus vivant, mais inanimé. Notre-Dame, toujours là, toujours elle, présente dans les moments si importants de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle sera présente aussi, bien sûr, entre l'Ascension et la Pentecôte. C'est le mystère de dans quelques semaines. Notre-Dame est présente pour donner aux apôtres la force pour des combats à venir, après la Pentecôte. Sans doute, ils auront le Saint-Esprit. Néanmoins, ils auront à subir bien des contradictions, des avanies jusqu'au martyre. Notre-Dame est là pour les encourager par sa prière, par sa présence maternelle, comme elle est immaculée. Elle a reçu déjà le Saint-Esprit, mais elle va, par sa présence, communiquer aux âmes des apôtres le Saint-Esprit. À ces jeunes apôtres, il y avait tant besoin de la force du bon Dieu. Et ainsi pour nous, bien chers frères, demandons à la Vierge Marie cette force dans les épreuves, quelles qu'elles soient encore une fois. Notre-Dame nous donnera toujours cette force pour lutter, pour être victorieux contre nous-mêmes, contre le monde, contre le démon qui cherche à nous nuire de toute façon, de toutes les façons, pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit en notre âme ressuscité. Et cette âme ressuscitée ne meurt plus. C'est la grâce sanctifiante et toutes les grâces actuelles qui sont comme des influx successifs pour nous aider à faire le bien et éviter le mal, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.